Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org.
Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des arts de ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Shows de balcon, parades, pop-up artistiques diffusés en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste et plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de Choc.ca.
Le Septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose grâce à une instrumentation extrêmement variée une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.
Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca.
Vous écoutez une émission de Choc.ca.
Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur Choc.ca, édition du 10 septembre 2020. Simon à l'animation cette semaine. Les deux autres apatrides, Marie-Ève et Mathieu, seront avec nous tout au long de l'heure qui s'en vient. C'est la rentrée. Sur Choc, c'est pas mal le début de la saison d'automne pour nous aux apatrides. C'est notre 5e saison déjà. Pas 5e année, mais quand même, on peut dire qu'on commence à être bien installé dans la station. C'est une rentrée qui est pas comme les autres. On est toujours en mode préenregistré. Mais peut-être pour la dernière fois, parce qu'on nous promet un retour en studio normalement d'ici les prochains jours pour l'ensemble des émissions. Il y a beaucoup de monde qui va être très, très, très content. Donc, pour notre prochain rendez-vous aux Apatrides Anonymes dans 2 semaines, on devrait être live en studio. Yes, enfin! Donc, rentrée tout de même, bon, inhabituelle, progressive. Par exemple, je crois pas que ce sera possible d'avoir des invités avec nous en studio à court terme, mais on va essayer de faire des entrevues quand même avec d'autres moyens. Donc, rentrée pour nous, rentrée pour Choc dans son ensemble. Il y a des nouvelles émissions qui vont se joindre à la grille actuelle dans les prochaines semaines. Programmation qui est déjà fort intéressante de toute façon, mais ça va l'être encore plus. Soyez curieux. De notre côté, on garde en gros la même formule, qui est quand même toujours en évolution, mais on reste votre rendez-vous radiophonique bimensuel sur les enjeux d'immigration, de racisme, de frontières et de délire sécuritaire, ici comme ailleurs. Avant d'annoncer le menu de cette émission du 10 septembre, on tenait à souligner le 3e anniversaire, donc je mets des gros guillemets au mot anniversaire, du génocide du peuple Rohingya. Génocide qui se poursuit, qui faiblit pas. Donc les Rohingyas, ce peuple principalement musulman du Myanmar, victime de milices bouddhistes assoiffées de pureté ethnique et religieuse. Plus d'1 million de Rohingyas ont fui le Myanmar depuis 3 ans, principalement vers le Bangladesh, et pas vers l'Inde, où les musulmans font aussi l'objet de toutes sortes de violences atroces et de violations extrêmement graves de leurs droits. Le 25 août dernier, dans les camps pour réfugiés Rohingyas, on soulignait les 3 ans de l'exode, du génocide, dans les conditions propres à la plupart des camps de réfugiés, c'est-à-dire dans des conditions insalubres, et il n'y a à peu près pas d'espoir actuellement de retour au pays ou d'amélioration de la situation à court ou moyen terme. Pandémie oblige, contrairement aux autres années, il n'y a pas eu d'appel à manifester dans les camps, mais à se claquemurer, donc terme que j'ai lu dans certains médias, ça veut dire tout fermer, rester chez soi dans le silence et cesser toute activité. Le génocide Rohingya, c'est probablement l'une des pires crises humanitaires en ce moment. Sans vouloir faire de classement avec la Syrie ou le Yémen, par exemple, et quelques autres endroits très difficiles actuellement sur la planète. Environ 600 000 Rohingyas sont encore dans le pays d'origine au Myanmar. Ils sont souvent apatrides du fait que le gouvernement nie carrément leur existence légale et vivent dans des conditions décrites comme un apartheid par plusieurs associations internationales. Bref, restez avec nous, beaucoup d'autres actualités internationales durant la prochaine heure. Des nouvelles méditerranéennes, un bloc répression, espionnage et liberté d'expression un peu partout dans le monde. Un bloc sport, et oui, une première à l'émission, Marie-Ève avait envie de nous parler sport à la sauce apatride, donc sport versus racisme. Vers la fin de l'émission, Mathieu va nous présenter un agenda avec tout plein de suggestions culturelles, militantes, on verra. Il y aura de la bonne musique, des brèves d'actualité à droite et à gauche, et dans un instant, on retrouve Mathieu qui va nous parler des récents développements sur l'extrême droite en Europe. Tout ça au Sapatrine Anonyme sur choc.ca.
Donc, des nouvelles internationales en Europe. On va parler de l'extrême droite, entre autres, avec tout ce qui se passe autour de cette mouvance-là. Premièrement, on va parler un peu de la Suède et du Danemark. Donc, fin août, des affrontements ont éclaté à Malmö, en Suède, à la suite d'actes islamophobes, quelques heures après que le chef d'un parti danois d'extrême droite, connu pour ses provocations anti-musulmanes, a été interdit d'entrer sur le territoire suédois alors qu'il prévoyait une manifestation. Donc, plus tard en soirée, des manifestants antiracistes ont donc protesté, en lien avec le fait qu'un Coran a brûlé dans la région plus tôt dans la journée. Ces incidents interviennent alors que Rasmus Paludan, chef de file de la ligne dure, oui c'est bien le nom du parti danois d'extrême droite, devait se rendre vendredi à Malmö puis organiser une manifestation anti-musulmane où il appelait entre autres à brûler le Coran, ce qui a eu lieu comme vous comprenez. Donc, des sympathisants de Rasmus Paludan s'étaient toutefois rassemblés au cours de la journée, durant laquelle 3 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'incitation à la haine raciale. Donc, le facho du Danemark avait préalablement déposé une demande d'autorisation qui lui a été refusée au motif que ni sa sécurité, ni celle des passants ou des contre-manifestants n'auraient pu être garanties. Il a malgré tout tenté de rejoindre la ville suédoise, mais a été arrêté à Lernaken, près de Malmö, et ensuite interdit de séjour de territoire pour 2 ans en Suède. Comment il a réagi, le facho Paludan? Sur Facebook, il a dit, je cite, « Renvoyé avec interdiction d'entrée de 2 ans en Suède, cependant, les violeurs et les meurtriers sont toujours les bienvenus, évidemment. » Qui est-il, ce monsieur Paludan? Un avocat youtubeur qui organise régulièrement des manifs rassemblant une poignée de personnes pour exprimer son opposition à l'immigration et à ce qu'il considère être une islamisation de la société. En 2019, il avait brûlé un Coran entouré de bacon. Merveilleux, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Donc, ce genre de personnage, il voulait aller faire un autodafé à Malmö, en Suède. Il n'a pas pu rentrer. Ses sympathisants ont quand même brûlé un Coran. Il y a eu des manifs contre ça. Et voilà, c'est un autre incident, comme il arrive régulièrement en Europe, dont on entend plus ou moins parler. Mais l'extrême droite est quand même assez active, entre autres en Scandinavie. Sinon, ben peut-être vous parler aussi de ce qui se passe en Europe avec les mouvements qu'on peut qualifier de populistes, mélangés avec l'extrême droite, qui ces temps-ci se déguise un peu sous la bannière des mouvements anti-masques, contre les mesures sanitaires, anti-COVID, anti-corona. Et la dernière fin de semaine du mois d'août, il y a eu plusieurs manifs en Europe là-dessus. Et en Europe, on commence à s'inquiéter de ces mouvements-là qui, par le fait qu'ils se transforment un peu, attirent des nouvelles personnes, évidemment, dans leur rang ou dans leurs événements. Faut revenir un peu aux États-Unis pour voir l'origine un peu de ces manifs-là au printemps dernier contre le confinement. Vous rappelez ces manifs dans certains États américains organisés et avec une forte présence des milices armées, de groupes suprémacistes blancs, d'extrême droite. Ben en Europe, particulièrement en Allemagne, cette fin de semaine-là, donc à la fin août, ça a inquiété beaucoup de gens, autant les politiciens évidemment que les mouvements sociaux, que les médias aussi. Il y a eu une grosse manif donc à Berlin, entre autres. Plusieurs centaines de protestataires ont forcé un barrage de police pour essayer de rentrer dans le Reichstag, qui est le Parlement allemand. Évidemment, ça crée une genre d'onde de choc. Cet incident était le point d'orgue d'une manifestation anti-masse et contre la tyrannie médicale. C'était ça le titre du mouvement, qui a rassemblé près de 40 000 personnes quand même. Qui protestaient contre les mesures anti-COVID. Elle s'est soldée par environ 300 interpellations dehors des chaufferies avec la police. Ce qui a aussi dérangé beaucoup de gens, c'est que les drapeaux du Reich allemand aux couleurs noires, blanches et rouges, brandis par les manifestants en souvenir de l'Empire ayant disparu en 1919 après la Première Guerre mondiale. Donc on parle du Premier Reich, pas du Reich des nazis, mais quand même ça a secoué beaucoup de gens de se rappeler cette époque très sombre de l'Allemagne à la fin du 19e, début du 20e. Le lendemain, le dimanche, il y a environ 2000 personnes qui ont manifesté à nouveau près du Reichstag, qui ont été dispersées par la police. Le Reichstag, le Parlement allemand, ben c'est une charge assez émotive et symbolique en Allemagne parce qu'on se rappelle qu'il a été brûlé en 1933 par les nazis dans les tout débuts de la dictature et du régime autoritaire des nazis. Faut dire que la municipalité de Berlin avait tenté d'interdire le rassemblement de samedi, mais la justice, qui avait été saisie par les organisateurs, a autorisé la manif. Les personnes interpellées l'ont été devant le Reichstag, mais aussi devant l'ambassade de Russie. Vous savez un peu c'était quoi les... Bon, j'ai parlé tantôt de tyrannie médicale, et puis, de la question des masques. Bon, on parle en général des mesures imposées en raison de la pandémie, comme le port du masque ou les distances de sécurité à respecter. Et ces gens-là perçoivent ça comme une atteinte à leur liberté. Cette même fin de semaine, il y a eu plusieurs autres rassemblements similaires en Europe, à Londres, Paris, Zurich, en Autriche et ailleurs. Celui de Berlin est intervenu deux jours après l'annonce par le gouvernement de Merkel de nouvelles restrictions face à la recrudescence observée des infections. Et la foule était composée de différentes personnes, c'est de plus en plus hétéroclite, des militantes anti-vaccins, des complotistes, des citoyens qui s'inquiètent de leur liberté individuelle, mais aussi de plus en plus, on le voit, de sympathisants et de militants d'extrême droite. Le journal quotidien allemand le plus lu en Allemagne, le Bild, a titré le lendemain comme titre, entre guillemets, il faut stopper le virus brun. Donc, on sait à quoi on fait référence. Peut-être mentionner que parmi les manifestants interpellés, une des figures du mouvement anti-masque en Allemagne, Attila Hillmann, qui est devenu célèbre en tant que cuisinier vegan, est désormais membre autoproclamé de l'ultra-droite. Donc, je vous parle dans la même chronique de bacon et de cuisinier vegan. Peut-être vous dire qu'ici aussi, il y a de plus en plus un mélange dans ce genre de manifestations anti-masque, anti-COVID, anti-mesures contre le COVID, à la fois de toutes sortes de gens, de différentes mouvances populistes, mais aussi identitaires d'extrême droite, des mouvements comme Atalante et puis Pegida et puis aussi La Meute. Donc, on fera peut-être éventuellement à l'émission, ça sera à voir, un dossier peut-être sur ces nouveaux, entre guillemets, qui sont pas nouveaux, mouvements anti-masque et les liens avec l'extrême droite.
C'est l'émission des Apatrides Anonymes, Simon au micro. On entendait Nubia Garcia, qui est saxophoniste, flûtiste, compositrice britannique de Londres, d'origine à la fois guyanaise et de Trinidad. La pièce s'intitule « La cumbia me está llamando ». C'est un featuring avec La Perla et c'est sur l'album qui vient tout juste de sortir qui s'appelle « Source ». Avant de nous rendre en Méditerranée avec Marie-Ève, deux ou trois nouvelles brèves internationales. D'abord, une histoire qui fait pour le moins sourciller notre ex-beau fleuron national, Rio Tinto Alcan, a détruit deux sites aborigènes en Australie, dans l'État d'Australie occidentale, deux cavernes de 46 000 ans appartenant aux peuples Puutu Kunti Kurama et Pinikura. Dans le cadre d'exploration ou d'exploitation de minerais de fer, donc la compagnie a décidé d'ignorer tous les appels des peuples concernés, des archéologues, des historiens, qui ont lancé l'alarme à plusieurs reprises, mais Rio Tinto Alcan a préféré aller de l'avant et a procédé quand même à la destruction des deux sites sacrés. Évidemment, ça a provoqué un tollé à travers l'Australie et pour redorer son blason, la compagnie a décidé de priver de primes et non de salaire, trois de ses dirigeants, dont le Québécois Jean-Sébastien Jacques. Il ne recevra pas en 2020 sa prime annuelle de 3,5 millions de dollars. Inquiétez-vous pas trop pour lui, il va toucher son salaire annuel régulier, et à partir de l'année prochaine, il va recommencer à toucher à la fois ses primes annuelles et en plus, évidemment, son salaire. Phew! Petit tour rapide maintenant au Brésil. Deux nouvelles brésiliennes. Donc, la première, une route qui a été bloquée une dizaine de jours dans le nord du Brésil. Le barrage a été levé vers la fin du mois d'août. C'était dans l'état du Pará. Les autochtones du peuple Kayapo-Mikranoti, ils avaient plusieurs revendications, dont la fin de la déforestation et de l'orpaillage clandestin de leurs terres. Ils voulaient des compensations financières pour les dommages provoqués par la construction de routes et de différentes infrastructures. En plus aussi, ils demandaient de l'aide pour lutter contre le coronavirus. Il y a eu une décision judiciaire exigeant une réponse du gouvernement à leurs revendications. Le peuple Kayapo-Mikranoti se donnait une certaine période pour voir si le gouvernement allait effectivement donner suite à leurs revendications, du moins répondre, donner un signe quelconque. Faute de quoi, dépendamment de la réponse ou de la non-réponse, il y aura à nouveau des barrages routiers. Alors, dossier à suivre. On s'en va complètement dans le sud du Brésil pour la deuxième nouvelle brésilienne. D'autres communautés autochtones sévèrement touchées par la COVID. Il y a sept villages qui avaient établi un plan d'aide en collaboration avec Médecins sans frontières, avec MSF. Eh bien, il y a l'Agence gouvernementale du Brésil pour la santé des Autochtones, juste avant l'arrivée de l'ONG, de ses spécialistes, de son personnel, qui a décidé de leur interdire l'accès au territoire, d'interdire à MSF l'accès au territoire. La raison évoquée est vraiment pas claire, c'est très bureaucratique, du genre une case n'a pas été cochée dans tel formulaire. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une autre stratégie d'éradication des Autochtones, puisque tout récemment, le gouvernement de Bolsonaro, qui est super hostile aux communautés autochtones, a autorisé l'envoi dans la région de missionnaires chrétiens. Certains étaient porteurs du virus, ils ont à peu près pas de protocole sanitaire. Certains de ces missionnaires-là ne croient même pas à la COVID. De leur côté, MSF, Médecins sans frontières, ont des protocoles extrêmement stricts, ils ont les connaissances, les équipements nécessaires. Ils devaient être là expressément pour essayer de maîtriser la pandémie, en collaboration avec les communautés locales, pandémie qui touche des dizaines de milliers d'Autochtones au Brésil. Bon, on va aller rejoindre Marie-Ève de l'autre côté de l'océan pour des nouvelles méditerranéennes. Vous êtes toujours sur choc.ca.
Vous avez probablement entendu parler de la récente initiative de Banksy, cet artiste britannique célèbre pour son art urbain engagé, donc initiative de financer un bateau pour secourir les personnes migrantes qui essaient de rejoindre l'Europe à partir de l'Afrique du Nord. La capitaine du bateau est nulle autre que l'Allemande Pia Klemp, dont on vous a déjà parlé à l'émission, qui est connue pour avoir conduit plusieurs autres navires de sauvetage, dont le Sea Watch 3, et qui a refusé aussi la médaille d'honneur que la ville de Paris voulait lui remettre pour dénoncer la politique migratoire menée dans la capitale. C'est Banksy qui a contacté Klemp en septembre 2019 pour lui proposer de financer l'achat d'un nouveau bateau, qui a été peint en rose et décoré d'un graffiti de Banksy, qui représente une fille dans un gilet de sauvetage qui, elle, tient une bouée de sauvetage en forme de cœur. Le bateau a été baptisé le Louise Michel en l'honneur de l'anarchiste française du 19e siècle. Au dire de Pia Klemp, elle et les 10 membres de l'équipage se revendiquent d'ailleurs comme des militants antiracistes et antifascistes prônant un changement politique radical. Aussi, chose à noter, seules les femmes de l'équipage sont autorisées à s'exprimer au nom du Louise Michel. Le bateau est un ancien navire des douanes françaises, de plus petite taille que les habituels navires des ONG qui interviennent dans la Méditerranée, mais il est aussi beaucoup plus rapide, ce qui lui permet de prendre de vitesse les gardes-côtes libyens. Et l'équipage a pas chômé depuis son départ le 18 août du port espagnol de Boriana, près de Valence. À la fin du mois d'août, donc, le Louise Michel avait déjà secouru 219 migrants en deux opérations pour un bateau qui a une capacité maximale de 130 personnes. Il s'est retrouvé dans la situation où il était incapable de continuer d'avancer et 33 personnes sont d'ailleurs restées sur un radeau de sauvetage amarré au bateau. Le bateau se trouvait alors dans une zone de recherche et de secours de l'État de Malte. Ce sont des zones, c'est-à-dire c'est un espace où les États ont l'obligation de porter assistance aux embarcations en difficulté. L'équipage a lancé un appel à l'aide, mais prétextant la détérioration des conditions météorologiques maritimes dans la région, Malte a pelleté le problème dans la cour des gardes-côtes italiens, qui ont fini par envoyer un bateau de patrouille depuis Lampedusa, mais seulement pour embarquer les 49 personnes jugées les plus fragiles. Face à l'attitude des autorités, le Sea-Watch 4, qui a une clinique médicale à bord, est donc venu en aide au Louise Michel. Il faut dire que l'année 2020 a été marquée par une nette augmentation d'embarcations en Méditerranée centrale entre le début janvier et la fin juillet. Les tentatives au départ de la Libye ont augmenté de 91 % par rapport à la même période l'année passée, ce qui représente près de 14 500 personnes qui ont pris la mer. Il faut rappeler aussi qu'il s'agit de la route migratoire la plus meurtrière du monde. On estime que plus de 500 personnes sont mortes dans la Méditerranée depuis le début de l'année, mais les chiffres réels là sont fort probablement beaucoup plus élevés. Par exemple, à la mi-août, il y a au moins 45 migrants et réfugiés qui sont morts au large de la Libye lorsque le moteur de leur bateau a explosé, ce qui en fait le plus meurtrier naufrage de l'année. Selon l'Association française de défense des droits des personnes migrantes, la CIMAD, dont on vous parle souvent, depuis 2014, plus de 20 000 personnes sont mortes ou disparues qui ont été recensées en Méditerranée. Mais au-delà des morts, ce dont on parle moins, c'est que ces tragédies-là laissent de nombreuses familles dans l'obscurité ou le vide. En effet, ce sont 70 à 80% des personnes disparues en Méditerranée dont on retrouve pas les corps. À ce jour, aucun des pays de l'Union européenne n'a de procédure systématique, soit d'identification des corps ou de collecte systématique d'informations sur les personnes migrantes disparues. Des milliers de personnes décédées sont donc enterrées ou disparaissent dans l'anonymat. Généralement, les familles à la recherche de leurs proches peuvent s'adresser au Croissant Rouge ou au Comité international de la Croix-Rouge, mais ce qui s'enclenche à ce moment-là, c'est un véritable casse-tête médico-légal et juridique selon les pays concernés par les disparitions. Certaines associations ont donc pris les devants en élaborant des guides de sensibilisation grand public et des outils à destination des familles des disparus. Par exemple, la CIMAD a produit un guide sur la procédure italienne, en plus de soutenir les associations qui viennent en aide aux familles ainsi qu'aux proches de disparus, soit par la transmission d'informations sur les procédures d'identification des corps, d'inhumation, de rapatriement et sur l'ensemble des démarches à entreprendre. La CIMAD a aussi étendu son expertise, notamment à l'archipel de Mayotte, qui se situe dans l'océan Indien, et plus largement dans l'archipel des Comores, où l'association a réalisé une mission de collecte d'informations sur les mêmes problématiques locales et mêmes difficultés que rencontrent les familles. Cette mission-là a abouti à la production d'un guide pratique d'information pour les proches des personnes mortes ou disparues lors d'une traversée vers Mayotte. Elle a fait la même chose aussi aux frontières franco-italiennes et dans le nord de la France, dans le coin de Calais notamment. Évidemment, ces initiatives-là sont bienvenues et sont même essentielles, mais il faut aussi dénoncer l'hypocrisie du refus des États de prendre leurs responsabilités envers les familles de personnes disparues ou mortes en mer.
Merci Marie-Ève pour ton segment méditerranéen. Merci aussi au groupe local Crab, Crab avec deux A. On entendait un court extrait de la pièce Down with the Sickness. C'est tiré d'un mini album de deux pièces qu'ils ont sorti tout récemment. Donc on sert de cette pièce instrumentale comme marqueur musical à différents endroits dans la présente émission. On va aller rejoindre Mathieu dans deux minutes, mais juste avant, une autre petite brève internationale en passant par Hong Kong, où l'opposition est de plus en plus violemment réprimée. On en entend un peu moins parler dans les médias depuis quelques mois. Il y a deux parlementaires élus, deux critiques du gouvernement chinois, évidemment, Lam Chuk Thing et Ted Hui. Ils ont été arrêtés à leur domicile pour soi-disant avoir participé à des émeutes en 2019. Ça, c'est la version chinoise officielle. En fait, oui, ils avaient effectivement participé à des manifestations pacifiques, mais qui avaient été attaquées par des milices armées pro-gouvernement chinois. Des centaines de gens armés non identifiés avaient foncé dans le tas avec des dommages, vous vous en doutez, assez lourds. Il y a plein de vidéos incriminant pendant cette manif-là qui montrent entre autres des policiers et même le chef de police local assister aux agressions sans intervenir, laisser les agresseurs armés quitter les lieux sans être appréhendés, et on voit même un officier de la police serrer la main d'un des agresseurs armés. Toutes ces preuves accablantes, donc malgré ça, les officiels chinois persistent à présenter ces manifs-là comme de simples affrontements entre gangs rivaux, et on dépeint les deux parlementaires comme des vulgaires émeutiers, même s'ils ont été blessés assez gravement par les milices pro-gouvernement. C'est une façon très subtile de la part du gouvernement chinois de présenter la réalité. Le pire, c'est que parmi les agresseurs pro-gouvernement chinois, il s'est avéré qu'il y a des membres des triades, contrairement aux manifestants qui sont des étudiants, des étudiantes, travailleurs, des chômeurs, du monde ordinaire comme vous et moi. Donc, ça donne une idée de l'état des lieux actuellement à Hong Kong. Comme vous pouvez le constater, on est encore très loin d'un règlement pacifique ou d'une sortie de crise. Le gouvernement chinois lâchera pas son bout. Il est prêt à n'importe quelle bassesse et la lutte populaire, malgré ces répressions-là très sévères, très sournoises, ben la lutte continue. Ça nous mène à Mathieu qui nous a préparé un segment qu'on pourrait intituler « Répression, espionnage et liberté d'expression ». On est aux Apatrides anonymes sur choc.ca.
Je vais vous parler d'histoires passées un peu sous silence, comme on essaie de faire à l'émission régulièrement, en lien avec la sécurité nationale, liberté d'expression, liberté de presse, surveillance. Le premier sujet dont je vais vous parler, c'est digne d'un roman d'espionnage, mais visiblement, quand on fouille un peu, c'est assez courant comme façon de faire et comme événement. Donc, je vais vous parler d'un Canadien d'origine iranienne qui a été incarcéré, puis contraint à devenir informateur pour les services secrets iraniens en janvier dernier. Il s'appelle Behdad Eshfabod. C'est un ingénieur informatique assez connu dans la communauté des technos, qui a travaillé pour plusieurs grosses compagnies. Et donc, il a été arrêté le 15 janvier dernier à Téhéran. Il était en vacances dans son pays d'origine pour voir sa famille. Il a 38 ans. Il a donc été arrêté par le corps des gardiens de la révolution islamique. Ça, c'est vraiment pas fin. Le 15 janvier, donc, dernier. Accusé d'activités mettant en danger la sécurité du pays, d'avoir coopéré avec des organisations hostiles au régime, M. Eshfabod se voit confisquer à ce moment-là, le 15 janvier, tous ses appareils électroniques et conduit les yeux bandés à la tristement célèbre prison de Devin à Téhéran. Il est incarcéré pendant 6 jours. Il subit quotidiennement de longs interrogatoires concernant ses courriels, ses photos et ses messages textes trouvés sur son téléphone. Ses geôliers ont laissé entendre qu'ils pourraient l'accuser de ce qu'il voulait et qu'ils pourraient le tuer et faire passer sa mort pour un accident, comme ils l'ont fait avec la photojournaliste irano-canadienne Zahra Kazemi il y a quelques années dans la même prison d'Evin à Téhéran. Donc, M. Eshfabod croit avoir été repéré par le régime iranien à cause de ses liens avec plusieurs activistes iraniens depuis le mouvement vert qui avait suivi l'élection présidentielle iranienne en 2009. comme il pensait pas qu'il échapperait à la prison ou qu'il pourrait rester là très longtemps, il a décidé de coopérer en apparence, donc être libéré à condition de devenir informateur pour le régime iranien. Je vous rappelle, on est en janvier dernier. Ce qu'il nous dit, c'est que la seule chose qui intéressait ces geôliers étaient les activistes iraniens vivant à l'étranger qui créent des technologies permettant d'accéder à Internet. Finalement, ce n'est que 5 mois plus tard, il avait quitté l'Iran, qui reçoit un message de la part du CGRI, hein, le fameux corps des gardiens de la révolution islamique, un message codé. Il a décidé de pas répondre à ce message-là. Finalement, en y réfléchissant, il se sentait révolté par son arrestation et inquiet de ce qui pourrait arriver à sa famille restant en Iran. Donc, M. Esfabod a décidé de raconter son histoire publiquement, donc récemment, dans les dernières semaines, dans les médias. Je le cite, « Ils ont accès à ma famille, à mes amis, à mes informations personnelles. Moi, je n'avais rien contre eux. J'ai donc décidé de changer les règles du jeu. Maintenant, si quelque chose arrive à ma famille, le monde entier le saura. » Mais il faut dire que l'arrestation de M. Esfabod a ébranlé de nombreux Iraniens vivant à l'étranger. Beaucoup de gens qui se considéraient pas comme très ciblés ont été choqués de voir que quelqu'un comme M. Esfabod, qui n'est pas activiste, a été arrêté. Par exemple, pour l'ancien correspondant du Washington Post à Téhéran, Jason Rezaian, arrêté en 2014 par le même CGRI, puis accusé d'espionnage et emprisonné pendant plus de 500 jours en Iran, le témoignage de M. Esfabod prouve que le régime iranien utilise des Iraniens de la diaspora afin de récolter des informations pour leurs services de renseignement. Je le cite, « Nous savons maintenant qu'ils forcent des Iraniens vivant à l'étranger à collaborer avec eux. C'est une chose que beaucoup de gens soupçonnaient depuis longtemps, mais ce n'était pas tout à fait confirmé. » Actuellement, M. Esfabod est installé chez sa sœur à Edmonton depuis plus d'un mois. Il dit cependant souffrir encore et toujours du traumatisme qu'il a vécu. Il affirme que le stress causé par son arrestation a eu raison de son couple et a eu de graves conséquences sur sa santé mentale. Il ne sait pas non plus quand il pourra retourner en Iran, où il risque évidemment une lourde perte de prison et bien d'autres problèmes. Donc voilà un cas qui est assez intéressant, qui bon, un lien avec le Canada, l'Iran, qui nous éclaire sur certaines choses. Deuxième cas dont je vais vous parler, c'est vraiment liberté de presse et sécurité nationale. Donc le titre, c'est « Le Canada critiqué pour avoir refusé l'entrée au pays à un journaliste danois ». Ça se passe à la fin août aussi. Donc la Fédération internationale des journalistes et 3 grands syndicats du milieu journalistique ont dénoncé le fait que les services frontaliers canadiens ont empêché un journaliste danois d'entrer au pays pour couvrir le projet Trans Mountain et les mobilisations qu'il y a autour. Les syndicats accusent le Canada d'utiliser la pandémie comme prétexte pour restreindre la liberté de presse. Ce qui est arrivé, c'est que Christian Lindart, journaliste à la radio publique danoise DRP1 et qui est aussi documentariste, avait déjà travaillé au Canada pendant 4 mois avant la pandémie pour documenter l'expansion du pipeline Trans Mountain et son effet sur les populations autochtones. Le 21 août dernier, il se présente aux douanes avec un plan pour se mettre en quarantaine pendant 14 jours, sa carte de presse et une lettre de son employeur pour son travail. Après l'avoir interrogé pendant 6 heures, les agents de l'Agence des services frontaliers ont refusé l'entrée au pays à M. Lindart. Ce dernier affirme que la seule explication qu'il a reçue est que les médias ne sont pas un service essentiel. Et on va vous en parler de ça. Donc, la Fédération internationale des journalistes exhorte le gouvernement à clarifier la situation et à garantir la liberté de presse ainsi que le droit d'accès des journalistes étrangers au Canada. Le syndicat des journalistes danois ainsi que 2 syndicats au Canada, Unifor et Communication Workers of America, se sont joints à la fédération pour dénoncer l'expulsion de M. Lindart. L'agence, de son côté, a refusé de commenter le cas de M. Lindart. Elle a cependant expliqué qu'un reporter étranger doit démontrer qu'il lui est indispensable d'être physiquement au Canada pour une activité journalistique afin d'être accepté au pays. Il doit faire partie des 23 exemptions à l'ordre interdisant temporairement l'entrée des étrangers, des ressortissants étrangers au pays. Donc, être une personne qui fournira un service essentiel durant son séjour au Canada est l'une de ces 23 exemptions. Et les journalistes et les autres travailleurs qui soutiennent les médias sont reconnus comme des fournisseurs de services essentiels par le ministère de la Sécurité publique du Canada, ainsi que par la province de la Colombie-Britannique où M. Lindart se rendait. Ce dernier, dans une entrevue accordée, a dit que les agents frontaliers lui avaient répété plusieurs fois que les médias n'étaient pas un service essentiel et que leurs questions portaient surtout sur l'objet de ces reportages, le sujet. Donc, ce qu'on dit du côté des syndicats, c'est que c'est encore plus troublant parce que la COVID-19 est maintenant utilisée par plusieurs régimes autoritaires et un peu partout dans le monde comme façon de plus de réduire la liberté de presse. Donc, ça inquiète beaucoup que le Canada fasse la même chose. En terminant, juste vous dire que tout récemment, il y a eu une nouvelle sur un journaliste autochtone qui a été arrêté en Ontario, dans le coin de Caledonia, par l'OPP, l'Ontario Police, Provincial Police, début septembre, pour c'est quelqu'un qui couvrait des manifestations autochtones en lien avec des revendications territoriales, et il a été accusé de méfaits et de désobéissance à une interdiction de la Cour. Donc, on en parlera peut-être éventuellement, mais on voit qu'il se passe des choses au niveau de la liberté de presse au Canada actuellement, dans un cadre un peu particulier. Voilà. Yeah.
Call fuck it, est-ce que je suis optimiste? On écoute Black Mirror puis je suis même pas triste. Le nouvel ordre mondial. Feel comme le désordre de mon ancienne chambre chez ma mère. Là j'ai mes propres idées, ma propre adresse. Quoi de gris dans le fleuve, c'est un fuck, I guess. Plus sur Britney, elle sous la pluie. Visualise-nous en foutu 3048, 9 ou 50. Tout ce qui compte, la famille, en second, c'est rare qu'on invente. UFO, THC, TUS, BMX, HLM, extrait d'un SMS au bulletin, LCN. Par chance, les TDAH sont pas à Louis H. Les DSM parlent pas de rap à aucune page. MPC, des MP3, y'appelle ça le support. Lève tes what? Hey. Use pas ton ADN comme des ABS. Hey. Branche-moi ça le long de la prochaine ligne. Avant l'apparition du CBD, il mec qui se plaignait qu'il y avait de l'alcool sans alcool. Mais pot. Moi j'achète encore mon Urban Mail. C'est pas à bonne adresse pour des drogues fortes. Exercice, médecine, 8 jours sur 7. C'est que la réputation du squad est pas surfaite. En paroisse, ça se passe, bulle, zone. J'suis encore dans le même coin du cosmos. Bien, j'avais pris une pause. Isolé, back, rénové. La joie pis longe, arrêt, salut, bonjour. Aucune philosophie à part. Survie, rejet dans le pâté. J'apprends à m'adapter. Le pouvoir au peuple, en an 19. Au milieu d'une époque, sans que Christ, Dieu pardonne, pauvre, that's my dog. Mot qu'on utilise pour les amis dans Fonce.
Tu me reconnais, when you meet, I'm rockin' it. Come on, yeah. Quand y'a des besoins, c'est que je pense. M'en doute pas comment ça va, nous on parle pour on fait quel bon citoyen, puis on saute en serré comme la laine de l'âme.
Ce dont je viens vous parler est un sujet important. Souvent délaissé par des gens indifférents. Comment peut-on t'accepter dans cette société? Synonyme d'égalité, une telle cruauté. Dans les rondes de tous les étés, dans les rondes de tous les états. Pour ses abonnés et pour chasser comme des rats. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Le soir comme la journée, ils traînent dans les rues. La journée comme le soir, la drogue est à l'affût. Mais que fait le gouvernement, celui qui est pas d'argent? Il oublie ses enfants et investit dans l'armement. Je trouve ça dégoûtant, moi je trouve ça répugnant. Oh oui je suis révolté, est-ce que tu me comprends? En veut de bon cœur, où vous venez tendre la main? Car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse et le pouvoir. Tout cela peut vous quitter et vous laisser sans espoir. Ils sont pas connus d'école, mais connaîtront la tôle. Leur avenir est cassé, il est déjà sous contrôle. Alors que faire, mon frère, leur vie est un enfer. Regarde ce qui passe, y a pas de quoi en être fier.
Lors de la dernière émission, Marie-Ève nous avait concocté une sélection musicale qui soulignait la vitalité du hip-hop ici et dans le monde. Un autre bon exemple de bon hip-hop québécois qu'on entendait à l'instant, l'artiste KNLO, alias Kenlo Cracknuck, qui est aussi membre de La Claire Ensemble, avec une nouveauté aux paroles, ma foi, énigmatique. La pièce Pas de refrain, featuring avec Sevdi au disque Septième Ciel. Ça vient tout juste de sortir il y a quoi, 2-3 semaines. Donc c'est ça, Choc.ca, c'est des nouveautés locales indépendantes qu'on a beaucoup de plaisir à découvrir et à partager avec vous. Mais aux Apatrides Anonymes, on a d'abord et surtout du contenu d'actualité à saveur antiraciste. Impossible de passer sous silence le déboulonnement de ce cher John A. MacDonald récemment dans une manif pour le définancement du SPVM. D'ailleurs, c'est peut-être la seule affaire plate dans cette histoire-là, c'est que la revendication principale de la manifestation, donc de defunding de la police de Montréal, ben, c'est passé un peu inaperçu, occulté par le déboulonnement. En tombant, ça a séparé la tête du corps de MacDonald. Bref, c'était assez spectaculaire. faut croire que la tête était pas très bien vissée. Il faut dire aussi que McDonald's était pas mal tout le temps complètement saoul. Donc, après avoir été aspergé en rouge des dizaines de fois, une fois en vert fluo, je pense, ce père de la Confédération est enfin tombé. Quelques réactions outrées prévisibles comme Legault, le soi-disant nationaliste québécois, ou réactions plus surprenantes comme Valérie Plante qui a choqué pas mal de ses fans qui sont plus à gauche qu'elle, qui a condamné fortement ce qu'elle a appelé le vandalisme. Toujours un peu malaisant de voir les personnalités politiques plus choquées du renversement d'une statue que des horreurs perpétrées par les personnages représentés par ces statues. McDonald's, c'est pas rien, c'est vraiment le grand architecte du génocide autochtone avec un héritage colonial qui persiste encore aujourd'hui. Et ça date pas d'hier que le monument de McDonald's au Square Dorchester fait scandale. Je vous invite à lire un excellent article de Jean-François Nadeau, qui est historien et saparide. L'article s'appelle « Une statue controversée au premier jour ». Vous pouvez trouver l'article en ligne assez facilement. Ça nous rappelle que dès l'inauguration du monument en 1895, et même le jour en tant que tel de l'inauguration, ça s'est pas bien passé du tout. Jean-François Nadeau nous raconte ça en détail. Il y avait énormément d'opposition. Là, on va y aller avec une citation assez cool, assez exceptionnelle aussi, parce que ça nous vient d'Yves-François Blanchet. Marquez vos calendriers, c'est pas tous les jours que les apatrides anonymes vont célébrer l'ancien gérant d'Éric Lapointe. En réaction au très démagogique Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, qui disait vouloir réinstaller la statue de McDonald's déboulonnée devant le Parlement albertain à Edmonton, Yves-François Blanchet a répondu: oui, pourquoi pas, je la mettrais bien dans une belle caisse avec des plumes et je laisserais Jason Kenney fournir le goudron. Fin de la citation. Et Dieu sait qu'il y en a du goudron en Alberta avec la baisse des cours du pétrole, ils savent plus où le mettre actuellement. Alors, Alberta, Canada, OK, McDonald's, Tim Hortons, passe-moi à Puck, à Patrides Anonymes, choc.ca. On s'en va rejoindre Marie-Ève qui va nous parler, croyez-le ou non, de sport.
Chers auditeurs et auditrices, marquez vos calendriers parce que le 10 septembre passera à l'histoire pour la première chronique sportive des Apatrides Anonymes. Le sport professionnel est pas particulièrement connu pour être un milieu progressiste, on le sait, mais dans la foulée du mouvement Black Lives Matter et des manifestations qui ont suivi les assassinats de personnes noires aux États-Unis ces derniers mois, plusieurs équipes sportives et athlètes ont aussi pris position pour dénoncer le racisme ou exprimer leur solidarité avec les communautés noires. Par exemple, deux jours après que Jacob Blake a été criblé de 7 balles dans le dos par un policier blanc de Kenosha aux États-Unis, les Lions de Détroit ont refusé de fouler le terrain dans le cadre d'un entraînement du camp estival. Tous les membres de l'équipe de football, accompagnés par les entraîneurs, se sont plutôt présentés devant les installations où ils s'exercent avec des tableaux blancs portatifs où était inscrit « Le monde ne peut pas continuer ainsi » et « Nous ne resterons pas silencieux ». Plusieurs équipes de la NFL ont emboîté le pas d'ailleurs dans les jours suivants. Le lendemain, c'était au tour des Bucks de Milwaukee de ne pas se présenter pour leur échauffement avant leur match de basket contre le Magic d'Orlando, qui n'aura finalement jamais lieu. Ils ont refusé de jouer et ont rapidement reçu l'appui de leurs adversaires et des propriétaires de l'équipe. Il y a deux autres rencontres qui devaient avoir lieu plus tard, mais les quatre équipes avaient pas plus envie de jouer. Donc, la NBA et l'association des joueurs ont fini par annoncer qu'aucun match n'aurait lieu ce soir-là. Les Bucks sont sortis de leur vestiaire pour lire une déclaration dans laquelle ils demandaient à leurs élus de se réunir à nouveau et de, je cite, prendre les mesures qui s'imposent contre la brutalité policière et pour une réforme de la justice pénale. Les joueurs ont finalement décidé de poursuivre les séries, même si les Lakers et les Clippers de Los Angeles avaient suggéré à leurs collègues qu'il valait mieux annuler le reste de la saison. La Ligue féminine du basketball nord-américain, la WNBA, a elle aussi été à l'arrêt pour un match. Les joueuses avaient décidé de faire front commun pour prendre position elles aussi. Au soccer, dans la MLS, les joueurs de Miami et Atlanta ont choisi de prendre une photo tous ensemble en signe de solidarité au lieu de jouer au ballon. 5 des 6 matchs au programme n'ont finalement pas eu lieu et le propriétaire du Real du Real Salt Lake, Delroy Hansen, a vivement réagi au refus de ses joueurs. Il y a d'ailleurs des allégations de propos racistes qui ont fait surface et Hansen a dû se retirer temporairement de la gestion de l'organisation. Je vais vous en parler un peu plus tard. Au baseball, 7 matchs n'ont pas eu lieu, dont celui des Blue Jays de Toronto contre les Red Sox de Boston. Les Jays étaient prêts à jouer, mais ils ont fini par appuyer la décision contraire du voltigeur des Red Sox, Jackie Bradley Fiss. Et finalement, au hockey, la LNH et l'Association des joueurs ont, elles aussi, annulé 2 jours de match. L'Alliance pour la diversité dans le hockey, qui a été formée au début juin, dans la foulée de la mort de George Floyd, a vivement critiqué l'inaction de la LNH dans les 24 heures précédentes. Et finalement, encore une fois, au sein de la très élitiste et très blanche F1, aucune course a été annulée. Par exemple, le Grand Prix de Belgique qui a eu lieu à la fin août. Les coureurs se sont contentés de poser des gestes symboliques comme le Britannique Lewis Hamilton qui a proposé ces derniers mois la mise sur pied d'un comité chargé de favoriser la diversité dans le sport automobile. Et la majorité des pilotes de F1 ont posé un genou au sol avant chaque Grand Prix depuis la relance en juillet, mais d'autres ont choisi de rester debout. Au Canada, la seule initiative que j'ai pu trouver, c'est du côté du basket avec les Raptors de Toronto qui ont tergiversé pendant quelques jours avant d'annoncer finalement qu'ils boycotteraient pas leur match. Ils ont quand même peint leur autobus en noir avec le slogan « Black Lives Matter » en blanc. Une initiative collective, par contre, qui transcende les disciplines sportives est toutefois passée sous le radar. Il y a une lettre de 54 athlètes et entraîneurs noirs canadiens de différentes origines, adressées aux jeunes sportifs noirs. On y trouve des joueurs de l'Impact ou des Alouettes de Montréal, de la LNH, mais aussi des athlètes olympiques dans différentes disciplines. La lettre se veut moins une dénonciation des injustices raciales qu'un message d'espoir, même si certains passages sont plus politiques, en abordant, par exemple, la diversité et la représentativité des personnes noires dans le sport ou encore le privilège blanc. Reste que la lettre est davantage une célébration de la persévérance, du travail acharné et de la réussite. Bref, on peut se poser la question à savoir si toutes ces initiatives-là, qui sont certes louables, mais plus symboliques qu'autre chose, est-ce qu'elles participent vraiment à apporter des changements significatifs et durables? Parce que le sport professionnel, on le sait, hein, c'est une véritable industrie, c'est une histoire de gros sous, ne serait-ce que pour les propriétaires d'équipes, les joueurs eux-mêmes, hein, qui gagnent des salaires faramineux, c'est le moins qu'on puisse dire, ou encore pour les commanditaires. Parce que oui, de tels mouvements sont aussi récupérés à des fins mercantiles, comme ça a été le cas d'ailleurs avec Nike, hein, qui a financé en février dernier, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, une collection qu'ils ont intitulée « Black History Month ». On se demande si c'est la cause qui est importante ou l'occasion d'avoir des produits dérivés. C'est donc difficile de faire bouger une grosse machine comme celle-là, d'autant que le racisme y est encore bien présent. Par exemple, la LNH a récemment ouvert une enquête pour faire la lumière sur des allégations de propos racistes tenues par l'ex-directeur général des Panthers de la Floride, Dale Talon. Ou encore au soccer, le cas de Delroy Hansen, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le propriétaire du Real Salt Lake, lui a dû vendre ses équipes de soccer à la suite de la publication de rapports selon lesquels il a tenu des propos racistes. Plus près de nous, on peut se rappeler que l'automne dernier, l'entraîneur des Flames de Calgary, Bill Peters, a démissionné après avoir été visé par des allégations d'insultes racistes qu'il aurait proférées 10 ans plus tôt à Hakim Aku, un espoir d'origine nigériane qu'il dirigeait dans le club-école des Blackhawks. Et ça, ben, c'est sans parler des insultes racistes proférées soit par des fans lors de matchs ou même par des membres des équipes adverses. Mais on peut aussi se dire que les choses changent, même si on souhaiterait que ça aille plus vite. Il y a 30 ans, un tel mouvement de boycottage aurait été impensable. Par exemple, en 91, Craig Hodges, un coéquipier de Michael Jordan, lui avait demandé à lui et à Magic Johnson de boycotter le match numéro 1 de la finale de la NBA suite à l'attaque des policiers sur Rodney King. Hodges était très politisé, il prenait souvent position sur des enjeux sociaux, mais Jordan lui avait répondu qu'il était complètement fou et que c'était inconcevable, alors que Magic Johnson, lui avait plutôt dit qu'il trouvait que ce serait une réponse disproportionnée. Ou, plus récemment, en 2016, on se rappellera de Colin Kaepernick, qui est devenu là, le centre de l'attention médiatique en s'agenouillant pendant l'hymne national américain pour protester contre le racisme aux États-Unis et les violences policières envers les personnes noires et racisées, eh bien, à la fin de la saison 2016, Kaepernick avait utilisé l'option de son contrat avec les 49ers de San Francisco pour mettre fin à ce contrat et devenir un agent libre. Mais à ce jour, hein, depuis, il n'a jamais été recruté par une autre équipe de ligue. Et la dernière fois qu'il a disputé un match dans la NFL, c'était en janvier 2017. Tout ça pour dire que si vous pensiez que le sport en 2020 est toujours apolitique, j'espère que cette chronique sportive aura contribué à vous démontrer le contraire.
Donc, parler de sport aux apatrides anonymes, check, on coche la liste. Merci Marie-Ève, t'as réussi un exploit. Vous n'êtes pas sans savoir que le Parti conservateur du Canada a un nouveau chef. Vous avez probablement suivi cette enlevante soirée de course à la chefferie et vous vous êtes sûrement couché à 7h du matin pour savoir qui était le nouveau chef. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours de départ de Andrew Scheer. Pour reprendre l'excellent jeu de mots de Marie-Ève, il était parti sur une Scheer puis pas à moitié. Un discours très fâché, presque exalté, les yeux sortis de leurs orbites. C'était à saveur complotiste, très alt-right à la Breitbart News, une coche de plus, on était dans le QAnon. Vraiment, il était temps que ce sinistre individu disparaisse du paysage politique. Est-ce que Erin O'Toole sera un peu mieux? Un peu moins pire, j'imagine. En tout cas, il y a un discours moins revanchard et plus inclusif. Mais en même temps, quand la droite est plus présentable, ça peut être extrêmement dangereux aussi. Faudra voir comment il va positionner le Parti conservateur sur les questions frontalières, sur les questions extérieures, sur l'immigration, des thèmes sur lesquels il s'est pas encore très clairement prononcé. Donc à voir, ça reste le Parti conservateur, évidemment, avec un membership et une base électorale qui, elle, n'a pas changé. Reste très conservatrice, donc on s'attend pas à une révolution antiraciste de la part de Erin O'Toole. Évidemment, ce serait naïf de croire ça, mais on reste aux aguets et on vous revient probablement en campagne électorale fédérale, bientôt peut-être, puisque maintenant que les conservateurs ont un nouveau chef, ben ils vont être tentés de faire tomber le gouvernement Trudeau, et durant les campagnes électorales, c'est là qu'on peut voir les positions officielles des partis dans leur plateforme électorale, donc on verra à ce moment-là. On est toujours sur choc.ca. Dans une minute, Mathieu vous présente l'agenda antiraciste.
À l'agenda militant, antiraciste, antifasciste, etc. Donc, plusieurs événements dans les prochains jours à vous annoncer. 12 septembre, très grosse journée, beaucoup de choses, samedi le 12 septembre. Premièrement, à 15h, ça se passe au bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles, ça se passe dehors. L'événement s'appelle « Hip-Hop comme résistance », organisé par la coop Press Start, qui est un organisme qui est hébergé au bâtiment 7 depuis son ouverture il y a quelques années. Et cet organisme-là, Prestar, cette coop-là, organise des performances de jeunes et d'artistes hip-hop, surtout, vous avez compris, rap, de la communauté BIPOC. Vous allez entendre parler de ça de plus en plus. Black, Indigenous, or People of Color. Donc, BIPOC, un acronyme donc qu'on va voir de plus en plus. Donc, le 12 septembre, pour du hip-hop dans l'après-midi à 15h au bâtiment 7. Toujours cette même date-là, un concert en ligne, organisé par Montréal versus Racisme. Ça se passe de midi à 21h. Le concert s'appelle Unis contre le racisme et la discrimination. C'est en appui aux organismes Head & Hands de NDG et aussi Outstock de Montréal-Nord. Et parmi les artistes qui vont défiler entre midi et 21h, vous avez le choix d'aller à peu près à n'importe quelle heure, il y aurait Mimum et Morgan Tyler qui joueraient donc pendant cette journée-là en ligne. Un petit retour de leur côté. Ils en ont déjà fait un il y a quelques années, mais ça serait un autre retour. Groupe légendaire à Montréal. Toujours le 12 septembre à 11h, devant le Palais de justice à Montréal, mobilisation contre la réforme du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, c'est organisé par Le Québec, c'est nous aussi. Ça, c'est l'organisation qui cale pour la manif. Vous savez que la deuxième réforme du PEC, celle qui a été menée par la ministre Nadine Giroux, après celle avortée l'année passée de Hollin Barrette. Donc, cette deuxième réforme est entrée en vigueur le 22 juillet dernier, en plein été. On n'a pas trop entendu parler après que ça a été annoncé. Je vous rappelle que cette réforme-là exige plus d'expérience de travail pour les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires ou travailleurs étrangers, exclut plusieurs travailleurs de différents secteurs pour avoir accès au programme, et aussi cette réforme-là ne compte aucune clause de transition pour les étudiants déjà en cours d'études, donc au Québec. Donc, 12 juillet, 11 heures, devant le Palais de justice, manif contre la réforme du PEC. Le 15 septembre, une manifestation du milieu communautaire. Ça se passe au Parc La Fontaine, devant l'espace La Fontaine, de 12h30 à 15h30, organisé par le FRACA Montréal, le Front régional pour l'action communautaire autonome. Ça s'appelle Rassemblement engagé pour la rentrée. Et c'est dans l'idée de relancer la mobilisation, entre autres pour la justice sociale, après la dure période qu'on a vécue. Et c'est évidemment dans le contexte d'une crise économique, de déficit important, d'austérité peut-être à venir. Donc, repartir la mobilisation plus sociale en général le 15 septembre, 12h30 au Parc La Fontaine. Dernière manif, le 20 septembre, 14h, devant le bureau du premier ministre Legault sur l'avenue McGill College. C'est organisé par Solidarité sans frontières. Une autre marche pour un statut pour tous et toutes dans le cadre de la 4e journée pancanadienne pour un programme de régularisation complet. Il y en a eu plusieurs journées comme ça pancanadiennes au courant de l'été. Donc, on ne lâche pas la pression. Donc, le 20 septembre, 14h, devant le bureau de Legault, sur McGill College. Et en terminant, je voulais mentionner que sur le site de l'Assemblée nationale, il y a une pétition en ligne depuis quelques jours qui concerne les manifestations et rassemblements en temps de crise sanitaire. Et c'est un peu particulier, vous allez voir. On exige que les organisateurs, organisatrices de manifestations aient un registre des participants et participantes à leur manif et qu'ils soient accessibles aux autorités. On exige aussi des amendes pour les organisateurs, organisatrices et les participants qui ne respecteraient pas les consignes sanitaires, et on exige que les gens qui participent à des manifs aient passé un test de dépistage dans les jours à venir. Donc, c'est quand même assez sérieux. Officiellement, on vise les manifestations anti-masques, anti-consignes, mais ça pourrait toucher tout le monde parce qu'on nomme, entre autres, le fait que c'est supposé être 250 personnes maximum. Donc, n'allez pas signer cette pétition. Et on nous a dit, j'ai entendu ça entre les branches, il y a une rumeur comme quoi, en arrière de cette pétition-là, il y a un certain Yann Lafrenière, député caquiste et ex-propagandiste en chef du SPVM. Donc, tenez-vous loin et en attendant, bonne manif!
C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Avant de quitter, une dernière brève pour la route. Le roman, le best-seller « Les 10 petits nègres » d'Agatha Christie va enfin changer de titre en français pour « Ils étaient 10 » et il était temps. En anglais, le mot « nigger » ne fait plus partie du titre et du roman en tant que tel depuis des décennies. En français, parfois, on a de la difficulté à bouger, à évoluer, mais ça va être fait finalement. Donc, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. C'était donc, si je ne me trompe pas, la 33e émission des Apatrides Anonymes. On a une page Facebook où vous pouvez nous écrire et aller consulter du contenu complémentaire. Pour nous écrire, il y a aussi l'adresse courriel apatridesanonymes@resist.ca. Vous pouvez nous écouter en direct tous les deux jeudis, 18h30, sur choc.ca ou dans notre site web apatridesanonymes.info. C'était Simon au micro, à l'animation. J'étais en compagnie de Marie-Ève et Mathieu. On les remercie très fort pour tout le contenu qu'ils nous ont présenté. On se revoit dans deux semaines, le 24 septembre. Et si tout se passe comme prévu, on sera live dans les studios de Choc. On se peut plus, là, ça fait des mois. Ça fait depuis le mois de mars que c'est pas arrivé, donc on espère que vous serez au rendez-vous. On finit l'émission en musique. La pièce Firestarter du groupe principalement féminin LA Witch. C'est une nouveauté de l'album Play With Fire sur étiquette Suicide Squeeze Records. J'aime toujours vous mentionner comment les artistes décrivent leur propre son, alors voilà. Folk psychique, désespéré, du blues drone, lo-fi, léthargique, de rock garage imprégné de réverbération, de surf, maussade et drogué. N'est-ce pas? C'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca. Bonne soirée, portez-vous bien, on écoute les LA Witch et à dans deux semaines.